l'impact de la Pentecôte dans la vie de l'Église. Je ne suis pas là pour parler spécifiquement du baptême dans le Saint-Esprit et toute la doctrine qui tourne autour de cela, mais de vous parler plutôt de ce que la Pentecôte nous a apporté. Et surtout, j'ai intitulé ce message « L'impact », un mot qui est fort, nous allons le comprendre, de la Pentecôte dans la vie de l'Église. Et pour cela, nous allons parcourir les 5 premiers chapitres du livre des Actes. Alors, soyez prêts à voir votre Bible en main. Et j'aimerais prendre tout d'abord dans Actes chapitre 1er comme introduction, les 9 premiers versets. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis, « ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé par sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et puis nous allons directement au chapitre 2, où il nous est dit au premier verset, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Cette phrase qui m'intéresse tout particulièrement, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous savez que notre Dieu est un Dieu de promesses. Et les promesses qu'il nous donne, il les accomplit toujours. En son temps, Dieu accomplit ses promesses. Voyez-vous, après celle du salut, qui est une grande promesse, la Pentecôte est une des plus importantes qui a été réalisée. Parce qu'il faut reconnaître que c'est là que l'Église est née, le jour de la Pentecôte. Et cette Pentecôte est une promesse qui a affecté tout d'abord les 120 réunis dans la chambre haute. Elle a affecté cette église naissante, celle d'aujourd'hui, et il en sera de même jusqu'au jour où Jésus viendra chercher son église. Oui, non seulement l'église allait être touchée, mais à travers elle, le monde entier, de génération en génération, allait connaître des choses extraordinaires. Tout d'abord, le Saint-Esprit a été donné pour que le monde soit impacté. J'ai pris ce mot impacté. J'aime ce mot. Je vous explique qu'est-ce qu'il signifie. Tout d'abord, c'est un effet soudain. Si on fait référence à l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, eh bien, il est question que le Saint-Esprit est descendu sur eux soudainement. C'est quelque chose qui se fait soudainement et qui a une incidence, une répercussion. Frères et sœurs, nous avons été affectés positivement, touchés positivement par l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Vous savez, le vocabulaire habituel que nous employons, nous disons, le Saint-Esprit m'a touché. Le Saint-Esprit m'a visité. Généralement, c'est le langage que nous employons. Et aujourd'hui, je me permets de prendre un autre mot. C'est le mot impacté. Parce qu'il donne une connotation plus profonde. Vous allez comprendre. Je vais prendre une simple image. Avez-vous déjà eu un impact de caillou dans votre pare-brise? Vous souriez, hein? Vous voyez où je veux en arriver. C'est quelque chose d'ennuyant, impacté par le Saint-Esprit, c'est une bénédiction. Mais un impact de caillou dans un pare-brise, heureusement qu'il y a Carglass. Qui répare et par la suite peut être remplacé. Vous savez pourquoi? Je ne fais pas de la pub. Hein. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Je veux illustrer la profondeur du mot impact. Lorsque vous avez un impact dans votre pare-brise, lorsque j'ai appris qu'on réparait cela, j'étais très étonné parce que pendant des années, j'ai travaillé dans le verre. Et pour nous, un impact dans une glace, c'était la poubelle. Ça ne savait rien faire. Mais alors, me documentant, ayant aussi le problème, il est vrai qu'on peut le réparer. Mais ils ne vous répareront jamais votre pare-brise si l'impact se trouve dans le champ visuel du conducteur. C'est pour cela qu'ils remplacent. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la réparation, on regarde de l'extérieur, on ne voit rien. Mais l'impact est toujours là. Et les produits qu'ils ont mis dedans, lorsqu'il y a le soleil qui reflète, on voit tout comme un prisme de couleurs. Et c'est gênant pour la visibilité du conducteur. C'est pour cela, dans ce cas-là, on remplace. Tout simplement pour vous dire que impacter, c'est être touché en profondeur. C'est quelque chose qui laisse des traces. Alléluia. C'est quelque chose qu'on ne peut effacer. Lorsque Dieu touche un cœur ou impacte un cœur, eh bien, c'est quelque chose qui demeure. Même si, malheureusement, nous abandonnons parfois le Seigneur pour toutes sortes de choses, le souvenir de ce que vous avez vécu avec lui demeure. Vous avez bien été touché. Vous avez bien été impacté. Et ça vous permet de revenir vers le Seigneur. Mais ce n'est pas là mon sujet ce matin dans ce sens. Dans Jean 16, verset 7, permettez-moi de vous le dire, ou si vous voulez suivre dans votre Bible, ce n'est pas un problème. Il nous est dit ceci, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Voyez-vous, le Saint-Esprit est venu pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, l'un des buts de la venue du Saint-Esprit, c'est d'impacter le monde par sa parole. Nous sommes bien d'accord ? Par sa parole. Parce que le Saint-Esprit va convaincre les uns et les autres du péché qui va permettre à chacun d'accéder au royaume de Dieu par le moyen de la repentance. Pensez-vous que la repentance est quelque chose de facile ? On ne se repent pas aussi facilement que cela. Il faut avoir été touché par l'action du Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché. Donc il y a un impact qui est profond. Nos cœurs ont été touchés, brisés et nous sommes venus vers le Seigneur de cette manière. De cette manière, il nous ouvre aussi, il nous accorde pardon, le pardon des péchés, il nous ouvre les portes du ciel, nous retrouvons la communion avec le Seigneur, elle est rétablie. Dieu, par ce moyen, communique les dons de puissance, les dons nécessaires à l'Église pour sa mission de témoin, et je peux multiplier les exemples. C'est le rôle du Saint-Esprit. Vous savez, frères et sœurs, le Saint-Esprit est venu tout d'abord pour impacter les disciples. Cette promesse est renouvelée dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, et nous l'avons lu au verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et au verset 8, il nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Frères et sœurs, c'est ce que le chapitre 2 nous dit. Il y a là, lorsqu'il y a eu effusion du Saint-Esprit, nous l'avons lu tout à l'heure, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et remplit toute la maison où ils étaient assis. En conclusion, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je vous dirai, frères et sœurs, qu'il n'y a là aucune trace d'émotion passagère. Suivez-moi. Il n'y a aucune trace d'émotion passagère. Ils ont été touchés, impactés par le Saint-Esprit. Et cette expérience dont je vous parle est connue dans la Bible sous des expressions suivantes, non pas impact, mais si je prends la version Louis II, acte 2, 38, le don du Saint-Esprit qui est communiqué, acte 11, 15, le Saint-Esprit est descendu. Acte 1, verset 8, la puissance de l'Esprit. Acte 2, verset 4, rempli du Saint-Esprit. Et acte chapitre 1er, verset 1, chapitre 1er, verset 5, nous l'avons lu, l'expression est donnée le baptême du Saint-Esprit. Et toutes ces expressions ne nous parlent pas de quelque chose de superficiel, mais quelque chose de profond. D'ailleurs, Dieu ne fait pas dans le superficiel. Il travaille en profondeur dans vos cœurs. Il ne fait pas les choses superficiellement, mais il les fait en profondeur. Le baptême. Le mot baptême vient du grec baptizo, qui veut dire plonger, immerger, submerger. C'est ce mot qui est employé pour définir le baptême d'eau, ou que nous avons été baptisés dans un même esprit pour former un même corps, ou pour parler du baptême du Saint-Esprit. C'est le même mot qui veut dire plonger, immerger, submerger. Et lorsque je donne l'étude sur le baptême d'eau à l'église, je prends souvent cet exemple, c'est semblable à une éponge que l'on plonge dans l'eau, que l'on ressort, vous savez comment elle est. Elle est imbibée d'eau. J'aurais tendance à dire, il y a plus d'eau que d'éponge. Vous voyez? Donc c'est quelque chose de très profond. C'est le besoin de l'Église d'aujourd'hui. D'être revêtu encore et encore de la présence, de la puissance du Saint-Esprit, parce que nous sommes appelés à notre tour à impacter nos villes, le monde, par le puissant message de l'Évangile. Nous sommes appelés à impacter nos villes. Et je me suis réjoui tout à l'heure en parlant avec votre pasteur qui me présentait le travail d'évangélisation dans la région. Persévérez. Dieu va vous bénir. Dans cette région, il y a besoin d'une église, d'enfants de Dieu, qui vivent dans une communion profonde avec le Seigneur pour pouvoir répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Impacter la ville. Si je regarde Actes chapitre 2, ce qui a suivi l'effusion du Saint-Esprit, je vais vous lire quelques extraits. Vous dire simplement que la Pentecôte n'a pas passé inaperçue à Jérusalem. Elle a provoqué de l'étonnement. C'était un jour où beaucoup de personnes étaient dans la ville parce que, étant venues à Jérusalem à l'occasion de la fête de la Pentecôte pour adorer, ils ont entendu ce qui s'est passé dans la chambre haute. Le bruit était tellement fort. Ils parlaient en langue, cela s'est entendu. Et ils se sont posés des questions. Frères et sœurs, il nous est dit par exemple au verset 6, « Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Verset 9, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. C'est vrai que l'Église ne fera jamais l'unanimité. Il y a des personnes qui ne comprendront pas, mais voilà ce qui s'est passé dans la ville. Des gens ont été étonnés parce qu'ils ont entendu ces personnes parler en langue étrangère et de surcroît des langues qu'ils n'avaient pas apprises, qu'ils ne connaissaient pas. Et c'était leur propre langue maternelle. Ils étaient étonnés de cela. D'autant plus, ils entendaient parler des merveilles de Dieu. Alléluia. Des merveilles de Dieu. Et ils ont été étonnés. Il y a un homme qui est rempli de l'Esprit, va vous parler des merveilles de Dieu. Il va répandre le message de l'Évangile en mettant en évidence la personne de Jésus et le salut par grâce. Alléluia. Voyez-vous, cette ville a été impactée par ce qui s'est passé dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Mais j'aimerais aussi aller plus loin. La Pentecôte a impacté le ministère des apôtres et de l'Église, et cela pour la conversion des âmes. Si je vais un peu plus loin dans le chapitre 2, je ne vais pas tout vous lire, mais les versets clés. Voilà, Pierre prend la parole et explique à la population ce qui se passe exactement. Et dans son exposé, il dit ceci, parlant de Jésus, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur le Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut leur cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Moi, je trouve que c'est un texte formidable et qui nous parle de l'impact de la Pentecôte directement chez les personnes qui ont été témoins oculaire et par les oreilles aussi, de ce qui s'est passé dans la chambre haute, il leur a été expliqué quelque part, vous vous êtes trompé. Jésus est venu parmi vous, vous avez vu les prodiges, les miracles qu'il a accomplis, vous l'avez suivi en foule, et puis par la suite, eh bien vous vous êtes quelque part rétracté, parce que vous l'avez conduit au gibet de la croix. Et ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui est ressuscité, qui est remonté au ciel et qui a répandu le Saint-Esprit comme vous l'entendez et le voyez. Frères et sœurs, alors ils ont été vraiment touchés par là. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu avait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Vous vous êtes trompé, vous avez rejeté le Messie, mais Dieu a fait de lui Seigneur, celui que vous avez crucifié. Et les gens, frères et sœurs, étaient vraiment touchés, parce que la parole de Dieu nous dit ceci, après avoir entendu le discours, ils eurent le cœur vivement touché, et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » C'est-à-dire, ils ont ressenti la culpabilité de leur erreur, de leur péché. Et Pierre les a amenés à la repentance. C'est-à-dire à confesser leur tort, à reconnaître leur tort, de changer de conduite, de changer d'attitude par le moyen que donne la repentance. Lorsque quelqu'un se repent de son péché, Dieu le touche en profondeur et sa vie change, sa vie est transformée. C'est alors qu'il change de conduite parce qu'il a eu ce contact avec Jésus, parce qu'il a confessé ses péchés à Jésus. il devient une nouvelle créature. Voyez-vous, mes amis, Dieu ne fait pas les choses de manière superficielle, mais les fera toujours, toujours en profondeur. Nous allons aller plus loin et nous allons le remarquer. Par exemple, si nous nous arrêtons, nous allons aller progressivement dans ce chapitre, au chapitre 3, c'est après la Pentecôte. Combien de temps après, cela n'est pas mentionné. Mais on rencontre deux personnes bien connues, Pierre et Jean, nous dit le texte, chapitre 3, verset 1er, montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à tous ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous » et les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et là, frères et sœurs, je dirais, impacté pour une vie active de prière. Moi, je trouve là quelque chose d'extraordinaire. Ça tient du miracle qui consiste à la transformation des vies, des cœurs. C'est que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cela. Tout d'abord, la fidélité, c'était l'heure de la prière. Ils étaient fidèles pour aller au temple pour prier. C'est la première chose que je souligne. La deuxième chose que je voudrais souligner, justement, Pierre et Jean. Vous les connaissez? Ils avaient deux tempéraments différents. Jean a été appelé l'apôtre de l'amour. C'est celui qui savait mettre sa tête sur l'épaule de Jésus. Tandis que Pierre, permettez-moi, moi je l'ai surnommé le coupeur d'oreilles. C'était direct. Il était direct, Pierre. Bon, il est arrivé aussi à Jean de demander à Jésus, ne veux-tu pas que je fasse tomber le feu du ciel? Mais disons que c'était exceptionnel chez lui. Tandis que Pierre, il était fougueux. Frères et sœurs, et ces deux hommes, et ça c'est le miracle de Dieu, étaient ensemble à l'église à l'heure de la prière. Dites-moi, vous êtes peut-être une quinzaine, je n'ai pas compté, une vingtaine. Est-ce que vous avez tous la même personnalité? Est-ce que vous avez tous le même tempérament? Est-ce que vous avez tous le même caractère? Nous sommes d'accord de dire que nous sommes tous sur le tour du potier et qu'il est occupé à nous façonner pour faire de chacun des vases d'honneur propres et utiles au service du maître. Mais nous avons tous notre personnalité. Mais ce n'est plus notre personnalité, nos caractères qui nous empêchent d'être un dans la présence de Dieu. Amen. Vous voyez que l'œuvre que Dieu fait est toujours une œuvre en profondeur. malgré que nous sommes différents les uns des autres, nous savons nous aimer dans l'amour du Seigneur. Ça, c'est très important. Les contemporains de l'Église primitive, voyant vivre l'Église, pouvaient dire, voyez comme ils s'aiment. Voilà quelque chose de grand. Et ça, c'est l'action de Dieu dans nos vies. C'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Cette action qui est en profondeur. Vous voyez que le mot impact n'est pas exagéré. Il est vraiment à propos. Des hommes de prière. Et sur leur chemin, ils ont rencontré ce malheureux qui était boiteux de naissance et qu'on plaçait à la belle porte du temple pour faire l'aumône. Et lorsqu'il a vu Pierre et Jean s'approcher, bien sûr, il a tendu son petit pot, il a demandé l'aumône. Et regardez ce qu'a été la réponse. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Il fut guéri. Mais regardez ce que Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or. » Ce que cette personne attendait, quelques petites pièces. Je n'ai ni argent ni or. Mais ils disent quelque chose de profond. Mais ce que j'ai, ils ont quelque chose. Et ce qu'ils ont, ils l'ont reçu de la part de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, c'était des hommes d'onction. C'était des hommes de prière. C'était des hommes vêtus de l'autorité de Jésus. Et ils ont dit au nom de Jésus, eh bien, marche. Il a commencé à marcher, à sauter et à louer Dieu. Pierre et Jean ont été impactés par le Saint-Esprit. Ils ont reçu quelque chose. Ils ont communiqué ce qu'ils ont reçu. Et cet homme a été complètement guéri. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais remarquez, frères et sœurs, que ces hommes que j'appelle d'onction, étaient aussi des hommes sages. Par exemple, un peu plus loin, le verset 11 nous dit, « Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. » Ils sont venus voir. Mais regardez la réaction de Pierre. Pierre, voyant cela, au verset 12, dit au peuple, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait été d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Que s'est-il passé? Pourquoi nous regardez-vous comme ça? Mais ce n'est pas nous. Il est facile de comprendre, frères et sœurs, qu'ils venaient vers eux pour les élever. Ils ont fait un miracle. Oh, stop! Ce n'est pas nous. C'est la foi dans le nom de Jésus qui a guéri cet homme. Nous, nous sommes que ses serviteurs. Alléluia! Et je crois qu'il est important de le comprendre. Nous ne sommes que des serviteurs au service de Dieu. Et c'est lui qui nous utilise comme il veut et quand il veut. C'est lui qui est souverain. Mais celui qui sauve, c'est le nom de Jésus. Et voyez-vous, un miracle est accompli et directement les apôtres viennent avec la base de l'évangile, la personne de Jésus. Prêcher l'évangile dans notre entourage, c'est élever le nom de Jésus. Alléluia. Je dis que Dieu fait une œuvre en profondeur. Ne disons pas aux gens, venez à l'église. Dans le sens de dire, venez, vous verrez, tout est beau, tout est bien. Ce que les gens ont besoin, c'est de vie transformée par la puissance de Dieu. Et le seul moyen qu'ils puissent avoir cette bénédiction, c'est de présenter la personne qui peut changer et transformer les vies. Je vais aller encore un peu plus loin, j'ai encore le temps, 5 minutes. Ça va? 5 minutes? Voilà. Vous savez, des hommes impactés sont des hommes aussi qui sont préparés pour l'épreuve. Des hommes préparés pour l'épreuve. Dieu ne nous a jamais dit que nous lui suivrons dans un fauteuil. Que tout serait parfait sans lutte, sans combat. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Au chapitre 4, il s'est passé quelque chose. Pierre et Jean continuaient à prêcher. Et regardez les 4 premiers versets. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent des sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Remarquez, frères et sœurs, que le commandant du temple, les Sadducéens, ils étaient très mécontents. Très mécontents de ce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Oh là! Voilà quelque chose qu'ils ne pouvaient supporter. Ce n'était pas dans leur doctrine, ce n'était pas dans leur coutume. Ils apportaient une nouvelle doctrine et la religion existante a grincé des dents contre cela à un tel point qu'ils l'ont arrêté et l'ont jeté en prison. Commence la persécution à cause du nom de Jésus. Mais ce qui me frappe dans ce texte, cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Vous vous imaginez, les leaders sont en prison et les gens se convertissent. Les leaders sont en prison et les gens se convertissent. Vous savez pourquoi? On peut lier des hommes. Mais la parole qui est semée, personne ne peut la lier. La parole de Dieu nous dit que nous semons, nous arrosons, mais c'est Dieu qui fait croître. Alors ne vous découragez jamais, après avoir fait par exemple une mission d'évangélisation, d'avoir quelques soucis, quelques difficultés parce que vous n'avez pas été compris, vous avez été critiqué. La parole a été semée. Et cette semence, c'est Dieu qui va la faire croire. C'est quelque chose de merveilleux. Mais bien sûr, la situation est encore plus profonde parce que ce qui les tracasse et qui les dérange, c'est de voir cet homme boiteux en pleine santé. C'est contraire à la religion de l'époque. C'est tout à fait contraire. Alors, bien sûr, Pierre et Jean, je vous passe les détails, ont dû comparer devant le Sanhédrin et devaient rendre compte de la raison pour laquelle cet homme était en pleine santé. Et leur réponse a été ceci, au verset 10 du chapitre 4, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Ce n'est pas de l'autodéfense ici. En disant, c'est pas nous, c'est lui. Ce n'est pas de l'autodéfense. Mais c'est une proclamation des bases de l'Évangile. Et ils reviennent encore avec le péché d'Israël. Vous avez crucifié le Saint le Juste et Dieu l'a ressuscité. Et c'est lui, c'est par lui que cet homme a été complètement guéri. Alléluia. Voyez l'impact de la Pentecôte, jusqu'où ce que ça va. Frères et sœurs, alors ils viennent et placent les bases de l'Évangile, je me répète. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut en Jésus est annoncé. Les bases de l'Évangile sont annoncées. Bien sûr, cela n'a pas arrangé le Sanhédrin parce qu'ils ne savaient que faire. Parce qu'ils étaient conscients que cet homme avait été guéri et que toute la foule était témoin de cela. Et ils avaient peur de la réaction de la foule. Mais ils devaient se sauver la face, ils devaient faire quelque chose. Et qu'ont-ils fait? Eh bien, on le voit un peu plus loin, verset 14. « Mais comme ils voyaient, là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalier a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Frères et sœurs, ils ne sont pas contre ce que nous appelons la religion. Mais ce qui les dérange, c'est de parler du nom et dans le nom de Jésus. Voyez-vous? Et pourquoi? Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui délivre. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui intervient dans les besoins de l'humanité. Et ça, je dirais que le diable n'a jamais été contre la religion. Mais lorsqu'on parle de Jésus, frères et sœurs, là, il n'est pas content. Et ils vont essayer de les museler en disant, nous vous interdisons avec menace de parler en ce nom. Et vous savez quelle a été la réaction? Père et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir. des hommes impactés ne se laissent pas facilement intimider. Ils ne se laissent pas facilement intimider. Ils continuent à prêcher le message de l'Évangile malgré l'opposition. Remarquez que il n'y a pas que les disciples qui ont été impactés, mais l'Église aussi. Et devant cette situation, Pierre et Jean n'ont pas gardé ce souci pour eux-mêmes. La première chose qu'ils ont fait, c'est d'aller vers l'Église. Et l'Église s'est mise en prière. Verset 29 du chapitre 4, « Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. » Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ils se sont mis à prier tous ensemble. Et vous avez remarqué ce qu'ils ont demandé à Dieu? Que Dieu réalise ce que le Sanhédrin défendait. Tout simplement. En étendant ta main pour que se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et la parole de Dieu nous dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec une pleine assurance. Le lieu trembla. Vous savez ce que cela peut vouloir dire et veut dire? Si Dieu a répandu son esprit de nouveau sur l'Église réunie dans la prière, c'est parce qu'il y avait l'approbation de Dieu sur leur demande. Alléluia! Il y avait l'approbation de Dieu sur leur demande. Et de surcroît, ils sont de nouveau remplis, impactés par le Saint-Esprit, et ils continuaient à annoncer la parole avec assurance. Rien ne les a arrêtés. Et si je regarde le chapitre 5, je suis à la fin, eh bien, ils ont continué. De nouveau, ils ont été repris et jetés en prison. Je vous passe tous les détails. Et au verset 28, il est reposé cette question. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de ces hommes ?» Pierre et les apôtres répondirent, toujours la même réponse, « Il faut obéir Dieu plutôt qu'aux hommes. » Alors ils étaient désemparés, ils ne savaient que faire. Alors il y eut cet homme, son nom échappe, Gamaliel, voilà, qui a pris la parole et a pris quelques exemples de groupements religieux qu'ils ont voulu arrêter, empêcher, et ces groupes se sont effondrés, se sont détruits. Et puis il vient avec cette parole. Et maintenant, je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Mais les apôtres ont resté dans la même position. Mais j'aime cette parole. Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Et plusieurs siècles après, l'Église est là, elle est debout, et l'Évangile se propage de plus en plus. Vous voyez que Dieu ne fait rien superficiellement, mais il fait tout en profondeur. Puissions-nous être impactés de la présence de Dieu. Alléluia. Nous voulons nous incliner dans la prière et prendre un temps de prière ensemble.